Au quotidien, 5e édition.
Avec, entre autres, Yvan Deslauriers au micro, avec la co-animatrice Francine.
Francine Forget, j'y suis.
Elle est là. Nous sommes encadrés, disciplinés.
Ouf!
Par
j'essaie.
Par Mathieu Tessier.
Le chien de garde.
Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Vous êtes venu comment aujourd'hui, vous?
Je suis venu en deux roues à moteur.
Deux roues à moteur.
Oui, parce que j'ai un problème avec ma roue arrière sur mon vélo normal.
D'accord. Y a-t-il un essuie-glace sur votre vélo moteur?
Non.
Ah bon?
Je passe entre les gouttes d'eau.
Ah! OK. Ça doit être intéressant, vous suivez, vous. Et Francine, vous venez comment au studio?
Toujours à pied.
Vous à pied?
Ah, c'est une constance.
Puis moi, métro, on essaye tout.
De transport.
Cocktail, vraiment.
Mais on n'est pas encore avec l'auto, donc c'est pas si mal, je trouve.
Ouais. Mais des fois, je prends la commune auto, par exemple.
Ah!
Oui. J'ai la voix trop basse, semble-t-il. Alors, c'est notre première, je pense, Francine, c'est notre première journée où il pleut. Depuis qu'on a commencé.
Oui. Est-ce que c'est un signe de quelque chose, je pense?
Du tout.
OK.
Il y a des jours qui pleut, puis c'est pas arrivé encore. C'est notre sixième édition. C'est la sixième édition de la cinquième édition.
Ouais.
Et c'est une grosse émission aujourd'hui. On va s'en parler dans quelques instants. Mais avant ça, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour vous cette semaine?
D'abord, une chronique de Patrick Lagacé. Moi, je lis des chroniques de temps à autre et après, je suis un petit peu tannée. Alors, je suis un bout de temps sans lire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait quelque temps que j'avais lu une chronique, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé Anne aime l'odeur des roches.
Oui, oui, oui.
C'était dans l'écran de la Presse Plus, la consacrée à Patrick Lagacé ce week-end. Et il raconte l'histoire d'Anne Crabtree, et je vous invite à aller consulter ce texte qui est toujours disponible. Quand on google le nom de l'auteur, Patrick Lagacé, et la presse, généralement on arrive très facilement aux écrans de la Presse Plus qui ont été diffusés récemment. Donc Anne, c'est une autiste qui a vécu une enfance un peu comme les enfants autistes, je dirais, très protégée par ses parents et tout. Et à la mort de ses parents, on aurait cru qu'elle se serait retrouvée dans un foyer pour personnes âgées. Mais non. Comme elle dit, j'ai mon propre calendrier, je me suis développée à mon rythme. Et elle a pris son envol. Et son envol l'a amenée à être ambassadrice pour l'école à pas de géant, qui se consacre aux autistes de 4 à 21 ans. C'est un établissement qui est pionnier de l'inclusion et de la compréhension de l'autisme depuis plus de 40 ans. Alors cette histoire, cette femme, vraiment, mais vraiment, elle est séduisante. Et elle explique en fait certaines choses, entre autres sa mémoire phénoménale, qui est une mémoire photographique, qu'elle emmagasine les faits, les sensations, les vibrations, les moments. Mais moi, j'ai retenu les odeurs parce que il lui a demandé, Patrick Lagacé, « Anne, ça sent quoi les roches? » Et elle a dit « C'est une odeur réconfortante et chaleureuse. C'est différent de l'odeur de la neige. » La neige, ça sent quoi? Évidemment, Patrick Lagacé, il l'a relancé immédiatement.
Oui.
Et elle a dit « La crème glacée. » Alors, à lire cette histoire de la belle Anne qui a 77 ans,
oui,
mais
ça.
Qui est fringante comme une trentenaire.
Parce qu'on a toujours, en tout cas, moi, j'ai toujours à l'esprit qu'une personne autiste, c'est une personne relativement jeune. Je ne pense pas à une personne autiste qui a un certain âge, et c'est le cas dans, cet article.
Oui, c'est une très belle histoire de vie. Rapidement, une petite expérience personnelle, parce qu'encore ce matin, je recevais un courriel du panier bleu. Alors, j'ai fait une expérience.
Vous recevez des courriels du panier bleu?
Oui, je suis abonnée au panier bleu.
D'accord.
Parce que je me disais, ben il faut encourager ceux qui sont présents sur ce site qui encourage l'achat québécois, même si le site est boiteux, on ne répétera pas.
Êtes-vous chroniqueuse en technologie, vous, quelque part?
Ben, ça m'arrive des fois.
D'accord.
Ça m'arrive des fois. Et donc, j'ai fait affaire avec une entreprise qui s'appelle La Petite Sauvage, et je voulais vous en parler. La Petite Sauvage, c'est une apothicaire. Et pourquoi je veux vous en parler? C'est que souvent, moi, j'ai des commentaires négatifs de personnes dans mon entourage qui font affaire avec des petites entreprises du panier bleu, et ça a toujours trait à la livraison. Problème de livraison, ceci, cela, ça finit plus, il faut courir après ce qu'on a commandé. Pas parce que les gens ils ont de la mauvaise volonté, mais c'est des petites entreprises. Et je peux vous dire qu'avec la petite sauvage, oui, j'ai eu un problème de livraison. Ça ne s'est pas rendu chez moi, contrairement à ce qu'on m'avait indiqué, mais ça s'est réglé en 24 heures. Donc, ne nous décourageons pas, continuons, mais je voulais quand même parler de cet exploit parce que c'est aussi une petite entreprise
locale,
qui vend des produits, qui est née aux îles de la Madeleine, qui utilise des produits des îles, mais maintenant la propriétaire est revenue plus dans son patelin qui est la Naudière.
Ah, d'accord. Il faudra me donner l'adresse parce que j'y vais aux îles de la Madeleine cet été. De mon côté, mon fait saillant de la semaine, c'est le retour à une certaine forme de vie culturelle. Je suis allé avec Marie Lalande de quelques épisodes. Excusez-moi de rire.
Est-ce qu'elle a un lien avec vous, Marie Lalande?
On vit au même endroit. On a des enfants
ensemble. Mais ça ne veut rien dire. Ah, OK, là c'est plus précis.
D'accord. Alors, on est allé voir le spectacle de Adib Al-Khalidé. Ça, c'était dimanche dernier. Ensuite, hier, on était au spectacle de Virginie Fortin. Et ce soir, on va à un spectacle de musique à la salle Bourgie de l'OSM. C'est le romantisme anglais avec quelques musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est fascinant de voir, d'abord, les foules. Les salles sont pleines. Il y a très peu de gens qui portent le masque. On a vraiment l'air de revenir à il y a 2 ans, là, quand on ne connaissait pas ce qui est arrivé. C'est vraiment fascinant de voir ça, qu'il y a un retour. L'autre chose qui m'a frappé, c'est autant Adib Al-Khalidé que Virginie Fortin nous disent que les 2 dernières années, pour eux, ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur. On sous-estime l'effet que ça peut avoir sur des pigistes dans le domaine de la culture. Ben, on a entendu parler à travers les médias, les journaux, tout ça. Surtout, beaucoup, entre autres, les artisans, les éclairagistes, entre autres. C'est difficile de trouver des gens maintenant pour monter des scènes, etc. Mais les artistes sur scène devant nous, là, ils ont trouvé ça difficile et ils nous le disent. Comment ils sont heureux d'être là sur scène avec des gens devant eux. Ça fait chaud au cœur des deux côtés. Vraiment, là, on a l'impression de communier à quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment.
Mais en fait, il faut se rappeler qu'au Québec, hein, le salaire moyen et même médian des artistes n'est pas si élevé que ça.
Déjà au départ.
Et pendant la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Magali Lépine-Blondeau avait parlé de ça. Hein?
Oui.
Parce qu'elle s'était abonnée aux programmes gouvernementaux, puis il y en a qui étaient très étonnés. Voyons, cette actrice qu'on voit partout, comédienne au théâtre, etc.
Alors, c'était ma semaine. On va regarder l'émission d'aujourd'hui. Alors, Francine, qu'est-ce qui te touche particulièrement?
Bien, disons que j'aurai, comme à l'habitude, une rencontre avec Marcel Dugas, hein, que nous allons partager, n'est-ce pas, avec tous nos auditeurs, sur Harriet Tubman, qui est une abolitionniste et activiste sociale américaine, qui a vécu fin 18e et début 19e. Je vais aussi m'entretenir avec la présidente de Coefficient RH, Marie-Lie B. Desrochers, et on va parler du retour au travail et de l'inclusion.
Oh, oui, oui. Oui, surtout que dans la période de pandémie, là, j'imagine que les personnes qui vivent avec un handicap, ils ont tout leur équipement autour d'eux, mais au travail, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça va être vraiment intéressant. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, évidemment, on parle des unes. Alors, je vais aller du côté de Sherbrooke avec Monique Kerouac, du côté de Québec et Ottawa. Et on va parler au point de vue consommation de poussettes et chaises hautes. Et je peux vous dire que ça, c'est un domaine qui évolue vraiment beaucoup. Là, j'ai des jeunes enfants dans ma famille, pas direct, mais je peux voir l'évolution des poussettes. Et on va parler aussi avec Mme Vanessa Paris, qui est présidente directrice générale de Moelle Épinière et Mobilité Québec, sur les journées québécoises des lésions médulaires. 2022, qui ont commencé depuis le 21 mai et qu'il y a vraiment beaucoup d'actions de ce côté-là. Alors, on a une très grosse émission et on commence avec une chanson. Je ne connaissais pas la température quand j'ai choisi cette chanson.
Marie, tu me rappelles que rien n'est perdu d'avance, qu'il n'est jamais plus tard qu'on pense. Marie, tu me rappelles que cette journée qui commence est en soi une nouvelle chance. Marie, tu me rappelles que chaque feuille blanche peut devenir un paysage immense. Je dessine un oiseau dans ton dos. Toi, tu frissonnes et tu souris, puis tu me dis bonne nuit. Jouer demain au bord de l'eau. Et si c'est l'orage, Marie, on dansera sous la pluie. Marie, tu me rappelles que la poésie est partout, même si le monde est fou. Marie, tu me rappelles qu'il n'est pas question de trop s'en faire, faut laisser couler la rivière. Marie, tu me rappelles que chaque feuille qui se balance s'abandonne au vent et puis danse. Je dessine un oiseau dans ton dos. Toi, tu frissonnes et tu souris, puis tu me dis bonne nuit. On ira jouer demain. C'est l'orage, Marie, on dansera sous la pluie. Et si c'est l'orage, Marie, on dansera sous la pluie. Et si c'est l'orage, Marie.
Donc, faut comprendre que c'est ce que tu as chanté, ce que vous avez chanté, pardon, mon cher Yvan, à Marie ce matin.
Pas tout à fait encore. Là. Je suis pas au niveau de Vincent Vallière, mais
et
j'y travaille.
Ingrid Saint-Pierre.
Je le savais pas que c'était Ingrid, mm-hmm. Ingrid Saint-Pierre qui était la deuxième voix dans cette chanson. C'est une très jolie chanson que j'ai découverte par hasard cette semaine. Mais Francine, vous me disiez que vous la connaissiez déjà.
Ah, beaucoup, beaucoup. Non, je l'avais entendue et je trouvais ça très beau.
Et je vais rappeler le titre juste avant. C'est oui. « On dansera,
dansera sous la pluie ». Voilà.
Voilà.
Merci, Mathieu.
Ben, ça fait plaisir.
Du côté des unes, évidemment qu'on revient sur ce qui s'est passé au Texas. Alors, la Presse Plus, après le choc, la colère, l'envoyé spécial de la Presse Plus est allé à la rencontre de familles éplorées. Le Devoir également parle de cet événement tragique. Du côté du Devoir, on a davantage regardé comment avait vécu cette situation, je dirais, le directeur de l'école et aussi un jeune homme qui était dans le bureau du directeur de l'école au moment où cette histoire, malheureuse histoire, s'est produite. Donc, la communauté recherche des explications, c'est ce qu'on dit dans l'article de la presse. On se dit, bien, comment se fait-il que ça arrive à Uvalde, au Texas, dans cette école primaire de Robb, où 19 élèves, on se le rappelle, ont été tués, de même que deux enseignants. Les premières minutes d'une intervention dans une histoire comme celle-là, dans un événement comme celui-là, c'est extrêmement important. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose avec les policiers. C'est ce qu'on rapporte dans la presse, dans le sens que il s'est pas passé grand-chose, justement.
Au
c'est
début,
qu'ils sont
hein?
arrivés, ça a pris du temps. Et après ça, semble-t-il qu'on a hésité à intervenir. Pourtant, on dit... Il y avait 40 agents armés jusqu'aux dents, mais ils n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard, a dénoncé le père d'une petite fille, Jacqueline, 10 ans, tuée mardi dans l'école avec ses 18 camarades de classe et les deux enseignantes. Ensuite, on aborde quelque chose que je vais passer rapidement, mais je veux quand même le dire. théorie du complot, c'est-à-dire que dans les minutes qui ont suivi, là, il y a toutes sortes d'affaires qui sont apparues, comme d'habitude, sur les médias sociaux, des affirmations infondées selon lesquelles le tireur était un immigrant qui vivait illégalement aux États-Unis ou encore un transsexuel. Voilà, c'est ce que Twitter nous a rapporté, Reddit et d'autres plateformes de médias sociaux.
J'ai plusieurs commentaires éditoriaux que je vais garder pour moi.
Oui, vous feriez bien de le faire, mais c'est abondant quand il se produit ce genre de choses. Mm-hmm. On parle aussi, en une de la presse plus, des examens du ministère. Alors, les examens pour les élèves du primaire et du secondaire. Les examens du secondaire sont déjà commencés, d'ailleurs, dans les écoles. Des examens qui sont allégés. Pourquoi ils sont allégés? Parce que en mathématiques, en français, en histoire, en sciences ou en anglais, les épreuves obligatoires, et en fait, le ministre a demandé, à cause de la pandémie, de sélectionner, donc depuis 2 ans, des connaissances essentielles. Donc, on a priorisé, comme on le dit, évidemment, ces connaissances essentielles, et c'est ce qu'on va aller vérifier.
D'ailleurs, j'entendais cette semaine les jeunes qui ont fait leur cégep, qui ont commencé leur cégep il y a 2 ans, vont avoir connu leur cégep que pendant la pandémie.
Oui, pour la plupart, oui. Oui, pour la plupart.
C'est quand même assez... Puis je connais des gens, là, entre autres, qui commençaient à l'université, là, c'est pas évident, puis commençaient à la Polytechnique, c'est pas évident non plus. Commencer à la Polytechnique dans sa chambre, c'est difficile.
Pour ceux qui sont capables, parce que des élèves plus faibles ont eu beaucoup de difficultés, ils ne sont pas, en fait, ont allongé la période au cégep.
Exact.
Dans un autre ordre d'idées, sur la une du Journal de Montréal, on parle encore de l'argent pour les médecins de famille. Donc, on revient, en fait, sur la dernière entente conclue entre le gouvernement et les médecins, qui va donner aux médecins une prime de 120 $ par nouveau patient. Et cette entente a été entérinée hier par Fédération des médecins qui, à 84%, ont approuvé cette entente-là. On parle aussi, en une du Journal de Montréal, de ce policier, l'agent du SPVM, qui a été attaqué hier. En fait, c'est pas l'agent comme tel, mais on devrait plutôt dire sa voiture, parce qu'il était à l'extérieur de son autopatrouille quand cette fusillade est survenue. Faut se dire que c'est exactement le même policier qui était intervenu dans l'affaire de Mamadi Camara en janvier 2021, Sanjay Vig, et disons que ça cause une certaine inquiétude chez les policiers. D'ailleurs, dans un autre article de Olivier Fauché, l'autre était de Maxime Delan, on a interrogé un ancien de la police de Montréal et qui dit que ça commence à être très inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de s'en prendre à quelqu'un qui est en uniforme. Et c'est un peu, disons, particulier. Enfin, toujours du côté du Journal de Montréal, un sondage léger qui montre que la CAQ, à ce moment-ci, et a plus que le vent dans les voiles, serait imbattable avec 44% des intentions de vote. Du côté du Devoir, outre ce qui s'est passé à l'école Robe de Uvalde, on parle beaucoup de baux résiliés, d'accès à la propriété de plus en plus difficile, dont la question du logement. Dans le premier cas, loger à la même enseigne, une propriété, mais pas à tout prix. On parle d'un couple de Québec qui se demande s'il a les moyens, et pourtant, lui, il est dentiste, et elle enseigne à la leçon, d'accéder à la propriété. Mm-hmm. Et du côté des baux résiliés locataires campés, on raconte, Zachary Goudreau, l'histoire d'un propriétaire, en fait, qui devra probablement recourir à des moyens en faisant appel au TAL, au Tribunal administratif du logement, pour expulser son locataire parce que celui-ci avait déjà signifié qu'il s'en allait et le propriétaire était prêt à prendre sa place. En fait, c'était un logement qu'il prévoyait occuper et malheureusement, et ça ne sera pas le cas parce qu'il a changé d'idée son locataire.
Oh.
Rapidement, côté culture, 2 choses intéressantes en une du Devoir. Top Gun Maverick, une suite qui mérite 4 étoiles au Devoir et ailleurs. De même qu'une exposition dont je vous reparlerai, Chloé Wise ou le double sens des platitudes, une grande artiste en art visuel qui revient faire un tour à Montréal et qui va exposer à la galerie Blouin. C'est en première page du Devoir.
Et on s'en va du côté de l'Estrie ou des cantons de l'Est. Là, faudra me le spécifier un de ces jours. Bonjour, Monique.
Bonjour, Yvan. Bonjour, Francine. C'est un grand débat, Yvan, cette appellation.
Oui, je sais.
On ne s'étendra pas là-dessus ce matin. Alors, peut-être que vous planifiez venir en Estrie cet été. Je vous propose quelques activités qui ont fait, en fait, de petites unes, soit de la tribune, soit de l'Estrie Plus. Mm-hmm. Alors, commençons par la 8e édition de Sherbrooke prend la parole, qui réunit 115 auteurs, 22 artistes en art visuel et 15 compositeurs autour de la poésie. Et ça a commencé le 20 mai et ça va jusqu'au 18 juin. Alors, il y a un parcours de poésie au centre-ville de Sherbrooke qui compte 25 arrêts, une exposition multidisciplinaire dont la thématique est forêt urbaine, présentée dans les locaux de chez Madame Pickwick, qui est une boutique de matériel artistique, mm-hmm. et une soirée de poésie qui se tiendra le 11 juin au domaine Howard.
Oh.
On se déplace à la municipalité d'Orford, qui accueillera du 15 au 19 juin la première édition de l'OFO, c'est-à-dire le Festival de contes d'Orford, un festival de 5 jours qui met en vedette le conte comme art éphémère. On y présentera une programmation familiale par des artistes de la région et d'ailleurs au Québec. Ils se produiront sur le site principal du parc de la rivière aux Cerises et sur quelques scènes dans différents lieux du secteur Cherry River. Les deux sont accessibles par un parcours piétonnier à travers le village d'Orford. Ensuite, du 2 au 9 juillet prochain, eh bien, Grand Montréal, les gens de la Couronne Nord et Sud et tout le Québec, semble-t-il, vous jalouserez fortement tous les amateurs de blues et de folk de Sherbrooke,
oh oui.
de musique. Mmh. Alors, la directrice générale et artistique de Cher Blues et Folk, Suzanne Marie Landry, a réussi, Yvan, un tour de force en amenant sur les scènes du festival des Pink Martini, Tash Sultana, Patrick Watson, Daniel Bélanger, Steve Hill, Philippe Sess, Elliot Maginot et bien d'autres encore.
Est-ce qu'on peut facilement obtenir des billets?
Eh bien, écoute, vous allez voir sur les sites de tous ces beaux festivals. Je vous parle.
Oui.
Alors, la population estrienne pourra de nouveau se réunir à l'occasion de la 41e édition de la fête du Lac des Nations, qui se trouve au cœur de Sherbrooke. Alors, aux côtés de Loud, Half Moon Run et Alicia Moffett, entre autres, du 19 au 24 juillet, une trentaine de spectacles auront lieu au parc Jacques-Cartier, un lieu magnifique à découvrir, sur 3 scènes différentes. On souligne le retour des grands feux belles qui couronneront chaque soirée, mais cette fois-ci avec un concept différent. Les citoyens auront la chance de voir ou de revoir les spectacles pyro-musicaux de 5 firmes qui ont remporté le concours dans les 10 dernières années. Et je terminerai, Yvan, en vous parlant tout simplement de Festival Orford Music, qui met à l'avant-scène Brahms cette année, et ça a lieu du 9 juin au 12 août, une programmation très riche de différents musiciens qui se déplacent aussi, ça n'a pas lieu simplement au Parc Orford, mais à travers différents lieux de l'Estrie, bien sûr. Alors voilà, c'était les petites nouvelles de l'Estrie.
C'est à couper le souffle, vraiment, de très, très beaux spectacles, des artistes vraiment intéressants. Ça se pourrait qu'on pousse une pointe de ce côté-là. Merci beaucoup, Monique.
Ben, ça me fera plaisir de vous voir dans notre région.
si on y va, on sonne chez vous, c'est sûr.
Oui, c'est certainement. Certainement que j'irai. Oui, ça c'est sûr.
Je vous attendrai avec plaisir.
C'est bon.
Le rosé est prêt.
Ah, le rosé toujours au frais.
D'accord. Alors, à une autre, à la semaine prochaine, alors.
À la semaine prochaine. Au revoir.
De mon côté, on s'en va du côté de la Gatineau. Et du côté d'Ottawa-Gatineau, le sujet... Bon, il y a les élections provinciales qui vont avoir lieu dans une semaine. Mais le sujet de l'heure, présentement, c'est des sujets climatiques. Il y a eu l'orage la semaine dernière. Et il y a encore des dangers d'inondation. Même quand on est rendu à la fin du mois de mai, il semble que l'hiver, il y a eu beaucoup de neige dans la haute Gatineau et que ça a des effets présentement sur la rivière Gatineau. Alors, Mme Brochu, qui est la PDG de Hydro-Québec, est allée à Gatineau hier. C'est dans le droit d'aujourd'hui. Elle dit que dans le cadre d'une mêlée de presse tenue jeudi à quelques mètres de la rivière Gatineau, Mme Brochu a souligné que les conséquences des changements climatiques jouent déjà un grand rôle dans la prise de décision, tant chez Hydro-Québec que pour les différents paliers de gouvernement. Il se passe quelque chose sur la planète présentement et il faut prendre acte de ce qui se passe et de ce qu'on regarde, que ce soit les incendies de forêt dans le nord près de nos lignes, que ce soit les niveaux d'eau, que ce soit les coups de vent extraordinaires, a-t-elle mentionné. Il faut comprendre qu'on va de plus en plus vivre des aléas qui vont nous venir du ciel avec lesquels il va falloir composer. À un moment donné, il y a de grandes décisions qui doivent se prendre. En attendant, il faut qu'on gère au mieux. Alors, il faut se poser la question, est-ce que dans 100 ans, il va y avoir encore des bâtiments construits ici? Probablement pas. Donc, pour moi, c'est un article à lire absolument. D'abord, Mme Brochu est une personne que je trouve qui a une réflexion vraiment intéressante. Et elle nous situe les changements climatiques dans des conséquences très pratico-pratiques que nous devons comprendre et que nous devons subir éventuellement. Du côté du soleil à Québec, un sujet un peu plus léger, mais quand même important, la tenue vestimentaire dans les écoles. Et c'est une école, l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, où des élèves de 4e secondaire se sont un peu révoltés, si on veut, pour dire ben on aimerait avoir des tenues vestimentaires différentes que le code. Alors, le directeur leur a proposé de faire une réflexion là-dessus. Ils sont allés voir un sexologue et tout ça. Ils ont proposé un nouveau code. Ça n'a pas été ce que vous voulez, vous l'avez. On est arrivé avec un nouveau code vestimentaire que les filles ou certaines filles auraient peut-être voulu pousser plus loin et que certains membres du personnel n'auraient peut-être pas poussé aussi loin. Alors, on prend une petite pause et on revient dans quelques instants, 5e édition.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
Je
Le groupe Chose Sauvage. La chanson, c'était La valse des trottoirs.
Et parlant de trottoirs, je me tourne vers Serge Hamelin qui m'entend pas, je pense.
Oui, oui, tournez.
OK, d'accord. Et parlant de trottoirs, on va parler de poussettes et de chaises autres. Bien, chaises autres, ça n'a pas rapport au trottoir. Mais poussettes, ça...
Ah, méchant, oui. Surtout qu'ils ont testé dans la revue Protégez-vous. Genre.
L'évolution de la poussette est assez étonnante. Moi, j'ai dans ma famille élargie, là, j'ai un neveu qui a des jumeaux. Alors, j'ai connu la poussette avec deux coquilles.
Oui, oui, oui. Deux sièges, oui.
Deux sièges.
Excellent. Alors, bien, écoutez, ils ont testé ça, et puis, moi, j'en reviens pas, ils ont testé ça sur une distance d'environ 160 km, sur une route caoteuse standardisée.
Ça, c'est le test, ça, 160
km? Ils ont testé ça, oui. Soit l'équivalent de 3 km par semaine pour une année. Avant et après cet essai, on a évalué la rigidité de la poussette, on a la précision du mécanisme d'ouverture et de fermeture, la fluidité du roulement des roues et pivots, et la présence de bris. Alors, ils ont été très, très sévères à cet égard.
Il n'y avait pas de bébé dans la poussette.
Non, mais ils ont testé la poussette, ils ont poussé la poussette. Mais là, ils ont testé 18 modèles. Alors, ça prenait pendant, je ne sais pas moi, 160 km, on part avec la poussette sur une route carotteuse. Alors, 18 personnes en même temps, je ne sais pas.
Je sais pas, oui.
C'est bizarre, hein? Alors, ils ont testé 6 modèles classiques, 7 transformables, et il y a des compacts avec ça, et puis il y a des poussettes parapluies. Alors, donc,
ce sont
des types de poussettes que je viens de vous mentionner. Alors, là, ils ont évalué plusieurs critères. C'est la facilité à transporter la poussette, à la ranger, à y attacher l'enfant et à en manipuler les différentes composantes telles que les freins, le pare-soleil, le rangement principal et les poignées.
Mm-hmm.
Ensuite, ils ont tenu compte aussi de la maniabilité des poussettes sur différents parcours comme une surface lisse et du gravier et en franchissant des obstacles, c'est-à-dire une bande de trottoir et des escaliers. Oh, alors là, hein? Et à la fin du compte, donc 18 modèles testés, dont 6 classiques, vous savez qu'il y a le modèle compact qui, lui, peut être tellement compact qu'on peut le transporter dans l'avion, comme dans...
Dans la soute à bagages, là, au-dessus de...
Oui, c'est ça, ouais. C'est étonnant. Alors, voilà. Donc, la meilleure des poussettes, là, avec une note de 82...
Est-ce qu'on parle des prix? Parce que ça
pousse être, fort pas mal.
Ça peut être un cadeau, ça peut être vraiment un cadeau à faire aux nouveaux parents, ça.
Oui, c'est un beau cadeau. Alors, dans la poussette classique, c'est avec une note de 82%, et puis on a testé donc ce que je vous ai dit, là, le dossier inclinable, la fermeture, le système d'attache, etc. Enfin, dans tout ce que je vous ai mentionné tantôt, avec une note de 82%, c'est la Mima Ziggy. Z-I-G-I,
oui.
Mima.
Mm-hmm.
C'est bon?
Mm-hmm.
Alors, elle est juste seulement 550$. Ça a du bon sens, ça. Ensuite, vous avez...
Ça a sûrement du bon sens, mais on passe beaucoup de temps avec une poussette. Hein? Alors,
j'imagine. Non, mais ça a l'air que ça vaut la peine. La Mima, là, c'est un incontournable depuis 2018. Ce modèle classique est le meilleur de sa catégorie. Il réussit bien la majorité des essais, particulièrement le test de durabilité. Alors, un bébé, on va le mettre là-dedans pendant combien d'années? 2, 3, 4, 5 ans?
Une couple d'années,
c'est bon. Alors, c'est
au bout de 2 ans, on veut qu'il marche. Ouais.
Ensuite, il y a la transformable. Ça, c'est la classique. La transformable, c'est la plus chère parce qu'elle, on peut y mettre toutes sortes de choses dedans.
Oui.
Notamment une barre de retenue, une toile imperméable. Et puis, voilà. Et puis, c'est la Hoppa Baby Cruise à 870 $.
Et quand même, hein?
Et il y a la compacte, la Summer Infant, qui, elle, est à 210$. Ça, c'est la compacte, c'est un bon choix. Et cette poussette constitue un bon choix si vous êtes à la recherche d'un modèle compact. C'est la moins lourde, parce que quand même, crois.
S'il y a des étages, quand même. Il y a un bébé aussi.
8
hein?
kilos, oui. Ben, on a des fois le bébé avant. Oui. Et puis la moins chère de toutes nos recommandations. C'est à la fois, elle est facile à transporter, à manier, puis elle dispose d'un grand espace de rangement, ce qui est peu fréquent dans cette catégorie, la catégorie compacte. Okay. Alors voilà pour, elle est 210 $. C'est beau. Maintenant, nous allons dans un autre objet dont nous ne pouvons plus nous servir car nous avons l'arrière-train un peu trop élargi. C'est la
chaise
haute. Moi qui conduis un train, je dis aux gens, déposez votre arrière-train dans le train. Vous.
Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais en tout cas, continuez.
Ah bon? Vous aimeriez avoir une chaise haute?
Non, je l'ai pris personnel.
Ah ben, franchement, ben pas du tout.
Mon arrière-train ne rentrerait pas non plus.
Ben non, mais une chaise haute, c'est pour les bébés, là, quand même.
Là, il dormait, Yvan. Il dit, mon arrière-train ne rentrerait pas non plus. Alors, continuez, Serge.
C'est peut-être pas habile, oui. Présenté comme ça. Ouais.
Excusez-moi, je me souviens même plus ce que j'ai dit.
Alors, le Saint... de chaise haute.
Oui, la chaise haute, on appelle ça ici le Saint-Siège, à la page 27 de la revue Protégez-vous du mois de février. Alors, vous cherchez une chaise haute, facile à utiliser et à nettoyer. Eh bien, ils ont testé 31 modèles. Mm-hmm. Puis 11 nous enchanteront, paraît-il. 11 modèles. Mm-hmm. Alors, on a testé quoi? Ben, on a testé ici comment plier, déplier la chaise, y installer le bébé, incliner le dossier, enlever le plateau... est-ce que c'est facile à laver? Voilà, ils ont testé toutes ces choses-là. Mais maintenant, penchez-vous pour un modèle 3 en 1 ou 4 en 1. Avant de jeter votre dévolu sur une de ces chaises, disent-ils, posez-vous cette question. Avez-vous vraiment besoin d'un modèle qui se transforme en chaise basse et en table ou en balançoire? Alors, il y a des modèles qui se transforment en tout
qui
ça.
Qui font
moi,
tout
je
ça.
Je ne savais pas. Ouais, c'est formidable.
Moi, j'aime bien une chaise haute qui fait un bon travail de chaise haute.
De chaise haute.
Oui. Bon, ben écoutez, la chaise haute, là, la moins chère, là, c'est à 250 $. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est la Stokke. Stokke, c'est S-T-O-K-K-E. Click, c'est L-I-K-K à 250 $. Alors, c'est la seule chaise évolutive recommandée. Évolutive, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça change de grandeur selon la grandeur de l'enfant?
Oui, ça doit être ça. Oui. Je ne l'ai pas lu, là. Je ne l'ai pas vu.
Vous ne savez pas la réponse?
Ben non, mais oui. Alors, je vous pose la question. Je me suis dit peut-être que...
Ben, habituellement, on achète ça quand on a un premier enfant et ça arrive qu'on en a un deuxième.
Peut-être.
Ou même, dans un cas que je connais bien, ça arrive qu'il y en a deux qui arrivent en même temps.
OK. Alors, donc, ils disent que son siège moulé permet un nettoyage facile car il n'y a pas de recoin ou la nourriture.
Ça, c'est tellement vrai.
Ah oui. Alors, c'est voilà. Et puis, elle est légère. Maintenant, il y a la meilleure. Alors, la meilleure des meilleures, c'est la Baby Jogger standard à 350 $. Baby Jogger City Bistro. Elle a obtenu la meilleure note parmi les chaises hautes standards évaluées. Puis il y a l'autre aussi, la multifonction. La Mini A, qui a obtenu la meilleure note parmi toutes les chaises hautes. Malgré son grand espace au plancher, elle fait partie des rares chaises multifonctions qui se referment. Et lorsqu'elle est fermée, elle est très compacte.
Ah bon?
En outre, ce modèle est facile d'entretien et d'utilisation. Les changements de configuration sont nombreux et aisés. Alors, polyvalente, la chaise peut servir de transat, de siège d'appoint.
Le transat, c'est pour coucher dedans.
Et de banc rehausseur.
Et quand même.
C'est sérieux, hein?
Ce que je retiens de de ce que vous nous avez dit, c'est que pour offrir un cadeau d'une poussette puis d'une chaise haute, là, on se met en groupe parce que c'est à peu près 1000 $.
Ah oui, les deux.
Les deux.
Oui, les deux, c'est ça.
Bien, c'est de l'information extrêmement importante parce qu'on continue à faire des bébés puis on veut faire des cadeaux aux parents. Puis...
Vous pouvez marcher 160 km.
Hein? Oui, aussi.
C'est bon, là, on va pouvoir rentrer dans le siège de la chaise haute.
Ah, d'accord.
Oh, on est de retour, là.
Ah, oui.
On vous remercie, Serge.
Merci.
Et au plaisir de se reparler dès la semaine prochaine.
Mon dos n'est pas une chaise. Pourquoi tu t'assois dessus? De tout en poids et de tout en malaise, qui est comme un perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous, qui se referment comme des pièges derrière nous, comme des pièges derrière nous. On n'est pas une chaise, toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal, c'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges, tu mets des broches dans tous les coins. Drôle de manière de
Mon dos n'est pas une chaise. C'était le groupe Avec Podcast.
Avec Podcast, mais avec des poussettes puis une chaise autre.
Voilà.
Voilà. Et on s'en va du côté de Francine, je crois.
C'est bien ça. Alors, j'imagine que Marcel Dugas nous attend.
Je suis en ligne.
Eh bien, bonjour, Marcel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de Harriet Tubman, une femme exceptionnelle qui a vécu au Maryland et qui a fait tellement pour la cause des femmes et, je dirais, d'autres groupes aussi. Alors, on vous écoute.
Elle a connu une vie tellement extraordinaire, cette Harriet Tubman. Elle devait avoir son visage sur les billets de 20 $ américains. Ça a été annoncé en 2016. Toutefois, l'administration de Donald Trump a repoussé la production du billet au calende grec pour aucune raison particulière. Bon, en fait, oui, il y avait une raison, c'est parce que c'est une femme afro-descendante. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas présenté la chose comme ça. Mais billet ou non, on commémore cette année le bicentenaire de sa naissance. Elle est née esclave, elle s'est enfuie, elle a aidé des centaines d'autres esclaves à échapper à leurs conditions. En fait, on célèbre le bicentenaire de sa naissance, mais on ne tenait pas vraiment de registre de lieu et de date de naissance parmi la population esclave. Donc, on a un peu décrété qu'Harriet Tubman, qui s'appelait à sa naissance Araminta Ross, est née en 1822 dans l'État du Maryland, mais on ne le sait pas très exactement.
Oui, souvent, excusez-moi, j'ai lu un petit peu pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui avec ça. Puis souvent, c'est marqué entre 1820 et 1825.
C'est ça. Donc, mais on a un peu, donc, selon, dépendant des sources, souvent le chiffre 1822 revient. Donc, dans la communauté historique, on a un peu décrété, comme je le disais, que c'était 1822 pour avoir une date pour célébrer le bicentenaire de sa naissance. Et il y a beaucoup de commémorations qui sont faites à son sujet. On en parle beaucoup cette année pour cette raison-là. Je fais une note à propos de la vie dans les sociétés esclavagistes. Quand on pense au commerce des esclaves, on pense d'abord aux Africains, aux Africaines enlevés, amenés par bateau en Amérique et vendus ici. Mais il y avait aussi beaucoup de commerce entre les propriétaires d'êtres humains, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Si vos esclaves, par exemple, avaient des enfants, vous pouviez vous retrouver avec un surplus de main-d'œuvre et vous aviez la possibilité de louer ou carrément vendre des esclaves excédentaires à d'autres propriétaires. C'est un moyen de se faire un beau petit profit. Il y a trois des sœurs de Tubman qui ont été vendues et séparées du reste de la famille, et elle-même est louée à une autre propriétaire alors qu'elle avait 5 ou 6 ans. Elle devait bercer un bébé dans son landau, et si l'enfant se mettait à pleurer, Harriet recevait des coups de fouet. Alors qu'elle était adolescente, elle va être atteinte à la tête par un objet en métal lancé par un contremaître de plantation qui visait un autre esclave. C'est un accident plutôt bête, mais qui aura des graves conséquences. Elle a bien failli en mourir, elle a survécu, mais a gardé des séquelles toute sa vie, notamment des migraines, des convulsions. Elle a fait de la narcolepsie aussi, elle pouvait s'endormir à toutes sortes de moments. Ça a probablement été causé par cet accident. En 1849, elle est à la fin de la vingtaine, il était de plus en plus question qu'elle soit vendue. Tubman a décidé qu'elle ne serait pas transigée comme une vulgaire marchandise et a pris la fuite. Elle a parcouru la distance qui séparait la plantation où elle vivait de la ville de Philadelphie en Pennsylvanie en utilisant ce qu'on appelait le Underground Railroad, le chemin de fer souterrain. On l'appelait comme ça, mais ce n'était pas un chemin de fer. Il n'était pas souterrain non plus. C'était un réseau informel, décentralisé, de relais où les fugitifs pouvaient s'arrêter et parfois obtenir de l'assistance pour se rendre soit dans des États où l'esclavage est interdit, comme la Pennsylvanie où est allé Harriet Tubman, où il serait donc libre, ou encore dans des territoires autochtones américains, dans certaines îles des Caraïbes, au Mexique, ou même dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, tout particulièrement en Ontario actuel. Et on parlait de Underground Railroad parce que les gens qui l'utilisaient, on avait l'impression qu'ils disparaissaient sous terre. Ils et elles voyageaient de nuit à travers les forêts, les marais, en évitant les zones trop fortement peuplées, parce que les propriétaires tenaient à leurs esclaves. Évidemment, pas du point de vue humain, du point de vue, on pourrait dire, matériel. Ils ne voulaient pas perdre leur propriété. Et la propriétaire d'Harriet Tubman va passer, après sa fuite, une annonce dans les journaux offrant une récompense de 100 $, très gros montant d'argent pour l'époque, à quiconque lui rendrait son bien. Et c'est une autre raison pour laquelle le réseau qui facilitait la fuite des esclaves vers la liberté était si secret. Il y avait des chasseurs de primes qui rôdaient un peu partout à la recherche d'esclaves en fuite pour les ramener à leur maître et toucher la rançon offerte. Donc, Tubman va réussir à s'échapper et à se réfugier en Pennsylvanie, mais elle ne pouvait pas vivre libre, sachant que de nombreux membres de sa famille, de ses amis, continuaient à vivre dans la servitude. Et elle a mené une douzaine d'expéditions dans le Maryland au cours des années 1850. Et en tant que conductrice de convois de fugitifs, on reprenait encore le vocabulaire des chemins de fer, elle aurait aidé au moins 70 esclaves à trouver la liberté. Et d'ailleurs, dans sa vie, plus tard, elle tira une grande fierté du fait qu'elle avait réussi chacun de ses voyages comme conductrice sur le chemin de fer souterrain et qu'elle n'avait jamais perdu un passager en cours de route. Entre 1851 et 1861, Tubman a vécu à St. Catharines, dans l'actuel Ontario, c'est près de Niagara Falls. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1850, le Congrès des États-Unis a passé une nouvelle loi qui favorisait de toutes sortes de manières le renvoi d'esclaves en fuite à leurs propriétaires, peu importe où ils et elles se trouvaient dans le pays. Donc, aller se réfugier dans un État où l'esclavage avait été aboli ne vous protégeait plus nécessairement. Il était plus sûr d'amener les fugitifs au Canada uni, là où vous étiez certain de ne pas vous faire renvoyer chez votre maître. Et dans un de ses derniers voyages vers le sud, Tubman est allé chercher ses parents, qui vivaient toujours dans le Maryland. Ils étaient tous les deux libres à ce moment-là. Son père et sa mère appartenaient au départ à des propriétaires différents, et une fois que lui a obtenu sa liberté, imaginez-vous, il a racheté son épouse pour la somme de 20 $ pour qu'elle soit libre, elle également. Mais les parents d'Harriet Tubman avaient caché des esclaves fugitifs chez eux. Leur fille a jugé qu'il serait plus en sécurité avec elle à St. Catharines. 1861. Les États esclavagistes du Sud font sécession des États-Unis les uns après les autres et le pays entre en guerre. C'est la fameuse guerre de sécession qui durera jusqu'en 1865. Harriet Tubman, qui croyait qu'une victoire des États du Nord mènerait à l'abolition de l'esclavage, ce qui était loin d'être certain au départ, incidemment, décide de se mettre au service de l'armée de l'Union. Elle va servir d'abord dans des rôles traditionnels féminins en temps de guerre, infirmière, cuisinière, mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle participe à des missions de reconnaissance à travers les marais et les forêts de la Caroline du Sud. Elle qui était experte dans l'art de circuler dans ce genre de terrain sans se faire remarquer. Elle a aussi fait de l'espionnage en territoire confédéré. C'est un petit bout de femme, 1,50 m. Elle était dans la quarantaine. On aurait facilement pu lui donner plusieurs années de plus. On ne la remarquait pas trop, ce qui fait qu'elle pouvait recueillir de l'information auprès d'esclaves qui savaient où se trouvaient les troupes sudistes, où se trouvaient les caches d'armes, ce genre de choses. Elle sera aussi aux avant-postes lors d'un raid de soldats nordistes qui a permis de libérer environ 750 afro-descendants, hommes, femmes et enfants. Quand ils ont vu les soldats du Nord arriver, tout le monde s'est mis à courir pour échapper à leur maître, à leur propriétaire, dans un fouillis indescriptible, et ils ont été conduits à la liberté de cette manière-là. Après la guerre, Tubman est rentrée chez elle, et elle qui n'avait pratiquement jamais reçu de compensation régulière pour ses services dans l'armée. En plus de ça, elle s'est occupée de membres de sa famille, elle prenait à sa charge des anciens esclaves, des Afro-Américains, Afro-Américaines dans le besoin. Elle a vécu pauvrement toute sa vie, elle a fini par recevoir une pension très, très tardivement. Elle est décédée en 1913, elle avait à ce moment-là à peu près 90 ans, mais avant de mourir, elle a quand même livré un dernier combat, celui pour le droit de vote des femmes. Elle a fait plusieurs allocutions à travers les États-Unis à ce sujet-là. Et avec tout ce qu'elle a fait, Francine, je pense que vous allez être d'accord avec moi, elle mériterait amplement d'avoir son 20$ à elle si ça finit par se faire. Un jour, on parlait de 2030, là, d'après ce que j'ai vu le plus récemment.
Ah, c'est... En tout cas, on espère que ça va se faire. Vous avez tout à fait raison, Marcel. Espérons que très, très bientôt, ça se fera. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
À la semaine prochaine.
En écoutant Marcel Dugas, j'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à Viola Desmond de la Nouvelle-Écosse qui est sur les billets de 10$ canadiens. Elle n'était pas une esclave, mais elle a un parcours qui est assez semblable.
Hein? Oui, il y a plusieurs femmes dont malheureusement qu'on a oublié pendant de nombreuses années, mais maintenant justement, il y a des historiens comme Marcel qui nous les rappellent et c'est pour le mieux.
Mm-hmm.
Je vous parle du côté des paractualités d'une équipe de l'Université Laval à Québec qui a développé des technologies pour faciliter la vie des personnes handicapées. Et son outil, c'est la mécatronique. La mécatronique au service de la réadaptation, cet article est paru dans un écran de la Presse Plus sous la plume de Philippe Robitaille-Groux. On donne différents exemples de l'application des travaux, de la cuillère anti-tremblement à l'aide à l'écriture. On parle de cas comme celui de Sébastien Lepage, pour qui chaque activité du quotidien est un véritable défi. Sébastien, ça a été vraiment une inspiration pour développer des outils à l'aide de la mécatronique. En fait, cette science est un amalgame de la mécanique et de l'électronique. Et on donne, par exemple, des troubles du mouvement qui sont des fardeaux quand on vient le temps de s'alimenter. Mais à l'Université Laval, on a conçu un appareil qui permet justement de régir les cas de spasme. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de garder l'ustensile dans une trajectoire droite de l'assiette à la bouche. On a aussi fait une cuillère anti-tremblement pour des personnes atteintes de Parkinson. Du côté de l'écriture, on a réussi à développer une espèce de bras qui convient pour... l'écriture manuscrite. Et on sait que ça joue un rôle majeur dans le développement des enfants et de leur apprentissage des langues. Et enfin, on a aussi conçu un moteur électronique pour quelqu'un qui souffrait d'amyotrophie, c'est-à-dire des muscles affaiblis, qui lui permet d'ouvrir son ordinateur et son numériseur. Intéressant, n'est-ce pas?
Vraiment, vraiment.
Oui, alors dans la prochaine, la dernière demi-heure.
Ça va être quelque chose, ça aussi.
Je rencontre Marie-Lie B. Desrochers et vous allez vous entretenir avec Vanessa Paré de Moelle Épinière et Mobilité Québec.
Oui, exact, parce que c'est la semaine nationale des lésions médulaires. Il y a plein d'activités. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour parler de toutes ces activités-là. Il y a entre autres un parcours en vélo à main au circuit Gilles Villeneuve. On va en parler dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie-Lie Desrochers.
Bonjour Madame Forgette.
Oui, comme on se connaît un peu, on peut être à tu et à toi, on est ouvert. Le vendredi, nous, on est très lousse,
relax,
on pourrait dire.
Relax. Zen.
Alors Marie-Lie, qui est présidente, fondatrice et associée de Coefficient RH, je me permets d'être tu à toi parce que quand même, on se connaît depuis un certain temps. Puis on a fait un petit bout de chemin ensemble quand même.
Alors, plusieurs projets ensemble.
Plusieurs projets. Cette entreprise de Marie-Lie est vraiment spécialisée, on va résumer ça grosso modo, dans tout ce qui touche aux relations humaines. Et ce qui nous a amené à avoir cette conversation en onde avec vous, c'est un article que je vous résume rapidement, qui est issu du Human Resources Direction, qui est un site canadien sur lequel on a abordé la question de comment être un employeur plus accessible. Et quand on parlait d'accessibilité dans cet article, il y a beaucoup de choses. D'abord, l'accessibilité physique. On revient au bureau après cette période de pandémie. Plusieurs employeurs ont décidé de faire des nouveaux aménagements, de faire des travaux de transformation. Et aussi, pendant la pandémie, il faut se rappeler qu'on a travaillé chez nous. Alors, quand on est handicapé puis qu'on est bien installé chez nous, comment on fait pour retourner sur les lieux du travail et peut-être revenir à certaines mauvaises habitudes qu'on avait avant, c'est-à-dire des équipements qui étaient inadéquats. Alors donc, dans cet article, on aborde toutes sortes de transformations qu'on peut faire, comme des rampes, comme des portes plus larges, monte-escalier, etc., etc. On parle aussi de la flexibilité organisationnelle, c'est-à-dire de tenir compte du fait que des gens qui ont des handicaps peuvent avoir des contraintes dans l'agenda qui ne sont pas propres à tout le monde, comme des rendez-vous médicaux ou encore des soins particuliers qui doivent être reçus sur les heures de travail. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit flexible de ce côté-là. On parle aussi du côté recrutement. Alors pourquoi maintenant dans le recrutement, on ne tient pas compte que les gens à qui on s'adresse, peut-être que certains devraient pouvoir accéder au braille pour lire une offre d'emploi ou d'avoir des espèces d'aides qui nous permettent d'avoir un support particulier pour bien comprendre tout ce qu'il y a dans cette offre d'emploi. Donc, ne pas se limiter à l'offre d'emploi traditionnelle. On parle aussi de vérifier d'une façon particulière tout ce qui est la gestion de risque dans l'entreprise en ayant en tête, justement, qu'il y a des personnes qui sont handicapées. Alors, bref, il y a beaucoup de choses et on interpelle l'employeur dans cet article-là. Et ma première question, Marie-Lie, je me disais, est-ce que cette recherche d'accessibilité envers les personnes handicapées, c'est quelque chose de théorique là, qu'on présente dans un article, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aborde sur le retour en présentiel, ou si c'est vraiment une préoccupation des employeurs au retour de la pandémie?
Bien, je vais répondre en mentionnant que c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas uniquement théorique. On ne peut pas que le lire, on le vit. Je pense qu'il n'y a pas un de nos clients actuellement qui n'a pas cette préoccupation-là en tête d'être et ou de devenir un milieu beaucoup plus accessible, beaucoup plus flexible. On parle d'agilité organisationnelle, ça fait longtemps, mais maintenant, l'agilité organisationnelle fait partie des préoccupations RH. Donc, tant dans l'aménagement des bureaux que des façons de faire RH, tant dans le recrutement, l'intégration, le développement des compétences. On tient compte, la diversité, l'inclusion, là, c'est, je vous dirais que c'est la tendance. C'est pas une mode, au contraire, mais on est rendu là en 2022, puis ça fait du bien.
Est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu pourrais nous donner, Marie-Lie, là, chez tes clients, tout en respectant la confidentialité?
Avec plaisir. Puis pour les auditeurs, là, je vous dirais que je commencerai à donner un exemple, surtout avec la fin de l'article. Dans la fin de l'article, là, ça mentionnait que d'embaucher des gens avec des handicaps, une diversité, donc c'est là où je peux avoir des besoins qui diffèrent de d'autres collègues, fait en sorte qu'on embauche souvent des gens qui vont résoudre des problèmes beaucoup plus facilement parce qu'ils sont habitués de le faire, sont très innovatifs dans leur façon de faire, ils aiment trouver des solutions créatives et souvent, ce sont des personnes qui sont loyales. Fait que, tu sais, quand les clients nous appellent, ils disent « Marie-Lie, par quel bout je prends ça? » Ben, des années déjà au résultat puis l'impact positif que ça va avoir dans l'organisation, c'est un plus. Fait que c'est là où les gens embarquent dans des démarches. Mais plus spécifiquement, un exemple très concret, je n'aimerais pas, là, mais je suis certaine qu'il va se reconnaître, on travaille présentement avec un cégep. Un cégep qui, on le sait, qui est une organisation de service aux étudiants. Et on est dans un gros projet de consultation interne pour connaître les besoins. Parce qu'on parle de gens qui pourraient avoir un handicap, des troubles neurologiques. On pense aussi à des pré-retraités qu'on souhaite garder dans nos organisations qui ont des besoins différents, qui peuvent des fois même être moins tolérants au bruit excessif. Ben, tout ça là, est à prendre en considération. Et dans son cas, à ce client-là, puis je vais le dire dans les bonnes pratiques, la gestion égalitaire n'est plus dans les façons de faire en 2022. On ne veut plus traiter les gens égaux. Donc, l'équité, là, on le sait, ça veut dire qu'on va traiter les gens différemment, sans sentiment d'injustice, au contraire, mais c'est là où on va le traiter pour garantir un accès égal. On va traiter les gens avec équité. Fait que dans ce cas-ci, on est en train de consulter tous les membres du personnel. Donc, tous les employés sont consultés pour connaître leurs besoins en mobilier, en déplacement, déplacement à l'interne, déplacement inter-bâtiment, déplacement à l'externe vers des partenaires. On se questionne sur leurs besoins également dans leurs relations avec les collègues, dans leur concertation. Et pourquoi? Parce qu'on veut... puis l'a très bien dit, Francine, on se questionne tous actuellement sur les raisons qui valent un retour au travail ou un retour en arrière. Fait que le retour en arrière, pour nous, là, il est plus possible. On a fait un pas, donc il faut continuer à regarder vers l'avant. Et pour ce faire, bien, c'est là qu'on se questionne sur chacun des besoins. Et c'est dans les bonnes pratiques pour tout le monde. Je vous dirais là, qu'on ait des gens qui ont des difficultés ou qui vivent des situations particulières ou non. Regarder en avant fait en sorte qu'on va se démarquer. Quand on parle de marque employeur, là, c'est dans les éléments également à considérer.
Marie-Lie, dans cet accompagnement, est-ce que vous avez identifié des contraintes, des défis particuliers?
Oui. Et je vais donner un très bon exemple là, dans tout ce qu'on travaille principalement avec des données RH. Puis, je donne très souvent l'exemple que sur un axe là, dans lequel on va évaluer les besoins, bien, c'est pas tout le monde qui a le même besoin d'être en interaction dans la vie. Ça peut paraître très simple, là, ce que je dis, mais sur un axe de 0 à 100, bien, il y a des gens qui carburent à être en interaction. Donc, aller sur le milieu de travail, c'est wow. Il y en a d'autres là, qui c'est une obligation ou un mal nécessaire d'être en relation avec d'autres. Est-ce que ça fait en sorte qu'ils sont pas engagés pour leur employeur? Pas du tout. Est-ce que ça fait en sorte qu'ils sont pas capables de travailler en équipe? Pas du tout. Mais habituellement, ça va teinter leurs besoins en aménagement. Donc, c'est là où travailler dans un milieu où j'ai pas de bureau, ça peut avoir un impact négatif, alors que les autres qui carburent aux interactions, bien, travailler dans une salle collaborative, c'est un plus. Fait que c'est là où de traiter les gens, puis souvent, je vais donner un exemple très concret. avec ce client-là et avec d'autres, on travaille à définir des personas. Quand on travaille dans la gestion de la diversité, ben de comprendre nos gens, travailler avec des personas nous permet justement de se donner des tendances. J'ai des groupes. Et donc, dans tel type de poste, habituellement, j'ai tel profil cible qui aime l'interaction. J'en ai d'autres qui ont besoin de concentration. C'est là où on va tenir compte de ces différences-là, de ces angles morts-là, de ces besoins-là. On a des gens qui sont très, très actifs dans les milieux de travail. Donc, pour eux, avoir un bureau qui se lève, qui descend, peut être facilitant pour tout le monde. Et justement, va tenir compte également, lorsque j'ai un handicap physique, je vais pouvoir moduler la hauteur de mon bureau. Fait que, tu sais, cette notion-là d'inclusivité, sincèrement, souvent on pense que c'est très complexe, mais on a une façon de faire en sorte que les gens se sentent beaucoup plus respectés. L'impact, au final, c'est que ça donne du sens de retourner au milieu de travail.
Bien, merci beaucoup, Marie-Lie Desrochers, Coefficient RH, une entreprise qui offre des services justement d'accompagnement dans ce domaine-là et dans d'autres, et une entreprise de Trois-Rivières. À la prochaine!
Merci, Francine. Merci beaucoup. Bonne journée.
Changer d'avis, fini de friter mes écailles sur le plancher du travail. Demain, c'est aujourd'hui. Ça compte pour toi aussi.
Olivier Bellil et sa chanson Coconut.
Et on commence notre chronique Quoi surveiller en fin de semaine. On se tourne vers Vanessa Paré, qui est directrice générale à Moelle Épinière et Mobilité Québec. J'entends un petit rire. Est-ce que je vous ai débaptisé ou pas donné le bon titre ou toutes ces réponses?
J'apprécie le titre, mais non, je ne suis pas directrice générale, je suis organisatrice communautaire. Mais oui, ça me fait plaisir d'être avec vous.
OK, donc un jour, vous serez directrice générale. Je vous l'annonce.
Vous me l'annoncez. Mon boss, je ne suis pas sûre qu'il va venir entendre ça.
C'est un plan d'avenir. Donc, vous êtes en plein dans vos journées québécoises des lésions médulaires. Ça fait partie des semaines québécoises des personnes handicapées. Et là, je vous laisse la parole parce que vous n'aurez pas assez de temps.
Exactement. Donc, les journées québécoises des lésions médulaires, c'est ça, c'est notre 6e édition cette année. Comme le nom le dit, dans le fond, l'objectif, c'est de sensibiliser le grand public, les professionnels, les élus à la réalité des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière, puis plus largement aussi des personnes en situation de handicap. Donc, comment on procède, c'est qu'on offre un blitz d'activités durant une période. Et cette année, c'est ça, les IQLM coïncident avec la semaine québécoise des personnes handicapées là, qui va commencer mercredi prochain. Donc, on a tout plein d'activités. En fin de semaine, on n'en a pas, mais par contre, la fin de semaine prochaine, on a une superbe activité qui est une randonnée de vélo dans les Laurentides. Donc, vélo à main, vélo régulier, tout ce qui roule finalement. Puis il y aura, dans le fond, il va y avoir deux trajets, un de 20, un de 40 kilomètres. C'est vraiment une belle randonnée inclusive là, qui s'en vient. Et on va souhaiter du beau temps, là, pas comme aujourd'hui.
Ni demain, je pense.
Ni demain, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est mieux que ce soit la fin de semaine suivante. Sinon, on a tout plein de webinaires qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, dans le fond, c'est un webinaire qui porte sur les résultats d'un projet de recherche qui a été mené auprès de personnes qui ont une maison à la moelle épinière et d'autres types de handicaps, dans le fond, pour mesurer les impacts que la pandémie de COVID-19 a eu dans leur vie, dans le fond. Ça va être très intéressant. C'est à midi aujourd'hui. Les liens, évidemment, sont disponibles là, sur notre page Facebook, notre site web. Mardi prochain, ça, c'est pas un projet qu'on organise particulièrement. C'est plutôt une collaboration entre chercheurs et notamment l'organisme Exequo. C'est un webinaire sur le thème de la parentalité à part entière, donc soutenir l'exercice du rôle parental en situation de handicap. C'est vraiment c'est un sujet qui est peu amené, qui est peu exploré, donc ça va être très, très intéressant. Ça, c'est mardi prochain de 11h à 13h. Mercredi prochain, 1er juin de 16h à 18h, art et handicap à la rencontre de nos artistes. Dans le fond, on a organisé un concours artistique pour nos membres et ça va être l'occasion d'échanger avec les artistes, de présenter les œuvres et ultimement d'annoncer les grands gagnants. Jeudi prochain, 2 juin, en emploi, faut-il parler de ses limitations? Donc, un webinaire qui aborde vraiment la question dans le cadre de la recherche d'emploi en entrevue. Est-ce qu'il faut parler de notre limitation? Est-ce qu'il faut garder ça pour nous? À quel moment? Comment et tout? Donc, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment amener ce sujet-là en entrevue? Et finalement, vendredi prochain, une activité que je vais avoir le plaisir d'animer, qui s'intitule « Amour, sexualité, handicap, plaisir et tabou, parlons-en », avec une belle brochette d'invités, dans le fond, qui vont se prononcer sur ce sujet-là, qui va être fort intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça là, notre programmation pour la semaine prochaine, à partir d'aujourd'hui. Donc.
Et un ouf à travers toutes ces activités-là. Maintenant, Mme Paré, à quel endroit est-ce qu'on peut trouver ces informations-là si, à un moment donné, on veut s'inscrire à une de ces activités?
Vous pouvez les trouver sur notre site web au www.moelleepinière.com. Sur notre page Facebook également, vous pouvez nous téléphoner, nous chercher sur Google Moelle épinière et motricité Québec, nous appeler. On a aussi un numéro sans frais partout au Québec qui est le 1-877-341-7272 et on va vous donner toutes les informations. Donc, ce sont des activités qui sont gratuites et ouvertes à tous. Et on vous attend, dans le fond. Donc, vous nous trouvez, vous nous appelez, vous nous écrivez, puis on va s'assurer que l'information se rende jusqu'à vous.
Bravo. Après ces activités-là, est-ce qu'il y a comme une pause pendant l'été ou vous avez d'autres choses à nous annoncer éventuellement?
Comme plusieurs organismes, bien, on tombe dans la préparation de notre Assemblée générale annuelle. Donc, c'est la saison des AGA, comme on dit, là, le 16 juin. On va avoir des randonnées. Donc, à notre prochain rendez-vous, là, je crois, dans un mois, on va avoir toutes sortes d'événements de randonnées de vélo cet été dans différentes villes du Québec et notamment à Montréal, au circuit Gilles Villeneuve. Donc, je pourrais vous en parler plus en détail.
Superbe.
Et on a sûrement d'autres petits projets là, qui vont se définir. Et en septembre, là, on s'en va un petit peu loin, on va avoir un souper spectacle qui va être également gratuit et ouvert à tous dans le cadre de notre 75e anniversaire qui s'appelle 75 raisons de fêter. Donc, je pourrais vous donner plus de détails là, à ce moment-là.
Ben, c'est avec plaisir qu'on va se reparler dans un mois alors, et je vous souhaite une excellente semaine puis du beau temps.
Ben, merci. Je vous souhaite l'appareil, M. Delaney.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Un peu précis sous le tropique. pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sur un archipel sous le soleil, exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un je me fais les yeux ouverts, et pourtant si c'était réel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous.
Sous le soleil, exactement, Serge Gainsbourg.
Alors, on a commencé sous la pluie, puis on finit sous le soleil.
C'est un concept.
C'est un concept. C'est la direction que va prendre la fin de semaine. Et c'est d'ailleurs, chère Francine, notre segment « Qu'est-ce qu'on regarde pour la fin de semaine? » Moi, j'ai parlé tantôt, qu'est-ce qui m'avait marqué la semaine dernière, c'était des événements culturels, et je pense que vous en allez dans cette direction-là.
Eh oui, la culture, hein, vous savez, j'ai de la misère à en sortir, comme on dit. D'abord,
pourquoi en sortir?
Ben, c'est ça. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, probablement que ça ne sera pas si pire que ça le week-end, sur le plan de la météo.
Dimanche, ça va être bien.
Et dimanche, ça va être très beau. Et les autres jours, comme aujourd'hui, là, un petit parapluie, puis on est capable de faire bien des choses. Ne nous laissons pas intimider.
Allons-y.
Alors, allons-y. Premièrement, je vous rappelle BD Montréal. On en a beaucoup parlé dans les médias traditionnels et autres. Ce festival-là a lieu 27, 28, 29 mai.
Mathieu est tout enthousiasmé, là. Je pense que tout de suite après l'émission, il y va.
Bon, alors, la liste des exposants, moi, c'est ce pourquoi je vous en parle. La liste des exposants, elle est disponible sur BD Montréal. Vous n'avez qu'à googler ça et c'est extrêmement bien. Même si vous n'êtes pas un amateur, vous allez avoir le nom de tous les artistes qui vont être présents. Vous allez avoir le nom aussi, vous allez avoir aussi une biographie de ces auteurs-là. Et c'est vraiment une belle préparation pour aller à leur rencontre. Maintenant, un petit peu plus au sud, la place Henri Tranquille. Alors, bon, évidemment, cette place-là qu'on c'est a inaugurée avec la patinoire, situé sur Sainte-Catherine, je dirais deux billets avec le TNM, donc juste un peu à l'est de Saint-Urbain, du côté nord. Sur la place Henri-Tranquille, il y a toutes sortes de choses. C'est un très bel espace. Il y a aussi des expositions qui se tiennent dans les grands salons. Il y a un spectacle présentement qui s'appelle Holocène, que je n'ai pas vu, qui finit en fin de semaine, là, le 29 mai, donc il est encore là. Tout ça est gratuit. C'est une performance dans un aquarium géant. Et c'est un spectacle qui a voyagé beaucoup aux États-Unis, dont sur la côte californienne. C'est sûrement à aller voir. Mais moi, ce qui m'a séduite sur cette place, c'est le jeu de Scrabble géant. Alors, on est habitué aux échecs géants, mais le Scrabble géant, et j'ai même pris le temps d'observer des joueurs.
C'est vous avez juste
pas
observé.
Mal intéressant.
Vous n'avez pas joué.
Je ne me suis pas encore mouillée. Encore. Et vous, Yvan, qu'est-ce que vous allez suivre en fin de semaine?
Je pensais que la question, c'est et vous, Yvan, allez-vous aller jouer? Peut-être.
Ah, oh, ben, on pourrait peut-être faire un match à un moment donné, une émission en direct de Canal M.
Oui, ça serait une excellente idée. Ma belle-mère nous aurait clenché, là. Mais elle n'est plus avec nous, malheureusement. Moi, de mon côté, les activités que je vais surveiller sont dans un secteur plus sportif un peu, mais sportif de participation.
Mais quel bel équilibre!
Oui, je sais. Ça commence par demain. Normalement, j'ai participé à quelques reprises au défi Cyclomyélome. C'est un défi qui a été mis sur pied pour faire connaître la maladie du myélome multiple. Ça va se passer à Saint-Ignace-de-Stanbridge. C'est un 78 km. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le site de Canal M et vous écouter l'émission « Vivement les femmes » avec Marjorie Théodore. Elle rencontre Maryse Bouchard, qui est une des organisatrices de cet événement-là. Et ils vont parler dans cette émission-là du challenge physique, une façon de transcender la maladie. Si vous voyez Maryse, bon, je dis Maryse parce que je la connais un petit peu, Maryse Bouchard, qui a elle-même le myélome multiple, mais qui, grâce entre autres au vélo, elle a une vie active vraiment pleine. C'est vraiment intéressant à voir. Du côté, moi, je vais participer au festival Go Vélo Montréal. C'est le défi métropolitain. C'est le début un peu de l'été avec Vélo Québec. Donc, il y a le défi métropolitain qui va avoir lieu dimanche. Ça va être aussi le défi du soir qui va avoir lieu vendredi soir prochain. On en reparlera à notre émission. Et le Tour de l'Île qui va avoir lieu dimanche. De la semaine prochaine. Le Tour de l'Île, je pense qu'il est un peu moins long. Je pense que c'est comme 38 km ou quelque chose du genre. Mais c'est toujours un événement tellement festif. J'ai participé à plusieurs éditions de cet événement-là. C'est toujours très, très plaisant.
Est-ce que vous avez appris à apprivoiser les nids de poules?
Dans le Tour de l'Île, on n'est pas tant préoccupé par les nids de poules que pour les gens qui sont autour de nous, parce que ce n'est pas toujours des gens qui sont habitués de rouler avec des gens autour. Il y a beaucoup d'enfants, alors c'est vraiment le temps de regarder autour et de faire attention. Je finis avec le demi-marathon de l'Outaouais. Quand j'ai vécu là-bas, je l'ai couru une fois. Et je vous parle de Mme Réjeanne Fairhead. Ça se passe en fin de semaine. Madame Fairhead, elle va marcher le 5 km pour aider au financement du centre de soins de santé où elle est bénévole. Maintenant, ce qui est intéressant de sa part, c'est que Madame Fairhead, qui est bénévole, elle a 95 ans. Alors, non, le demi-marathon d'Outaouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les berges de la rivière des Outaouais. On va souhaiter que la rivière des Outaouais ça reste un peu tranquille puis déborde pas trop. Alors, c'est ce qu'on surveille en fin de semaine.
Merci, Yvan. Alors, c'est ainsi que se termine notre sixième émission. Merci à Mathieu Tessier, préfet de discipline et metteur en onde. Merci à vous, chers auditeurs. C'est toujours un grand plaisir de partager cette heure et demie le vendredi. Et Yvan, comme à l'habitude, je vous laisse le mot de la fin.
Eh bien, on se reparle vendredi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine avec beaucoup, un peu de pluie, un peu de soleil, beaucoup de barbecue.